Bonne matinée. Il est 10h.
Bonjour, c'est Philippe de l'équipe des sports d'RVE. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Hein. C'est plein de bonnes choses. Bonheur, plaisir et puis amour. Voilà, puis restez fidèles, naturellement, à l'équipe d'RVE.
Bonjour, c'est Chantal de l'émission Moins de bruit des filles. Avec toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente année et nous vous disons à très bientôt sur RVE.
Bonjour, c'est Jean-Marc de la matinale sur RVE. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017 avec tout ce que vous souhaitez. Et on se retrouve bien sûr tous les matins de 5h à 9h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. Un séisme d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter a été enregistré samedi matin vers 7h30 dans le centre de la Bretagne. Selon le réseau national de surveillance sismique, le point d'impact de ce tremblement de terre, situé à une profondeur de 10 km, se trouvait dans un triangle compris entre les communes du Loudéac dans les Côtes d'Armor et celles de Pontivy et Josselin dans le Morbihan. Selon les autorités, il n'y a eu ni victime ni dégâts et les pompiers n'ont pas eu à intervenir dans ces deux départements. Le nombre de départements sous surveillance augmente. Le verglas menace les routes, les conditions hivernales marquées s'étendent. Ce samedi, 30 départements sont ainsi placés en vigilance orange par Météo France en raison du risque de neige et de verglas. Il n'était que 20 vendredi. 2 ans, jour pour jour après les attentats qui ont frappé Paris et Montrouge, un hommage a été rendu aux victimes à Paris ce samedi. C'est l'Association française des victimes du terrorisme qui a appelé un rassemblement à 19h sur la place de la République, devenue le symbole de l'expression populaire contre le terrorisme islamiste. Un incendie volontaire a détruit la crèche de Noël de la cathédrale de Saint-Étienne vendredi soir. Un autre incendie se serait déclaré sous la chapelle de la Vierge. Les paroissiens présents dans l'édifice religieux ont pu éteindre les flammes avec de l'eau du bénitier. Des fidèles de confession musulmane sont venus spontanément proposer leurs aides pour nettoyer. La crèche et ses figurines sont en grande partie carbonisées. Le maire de la ville évoque la profanation d'un lieu de culte. Gilles Artigue, président départemental de l'UDI, parle d'un acte de vandalisme. L'actualité à l'étranger. Malgré la trêve entrée en vigueur, voilà 10 jours que les combats et les violences n'ont pas cessé en Syrie. Au moins 43 personnes, en majorité des civils, ont été tuées samedi par une voiture piégée à Azaz, une ville rebelle à la frontière avec la Turquie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 6 rebelles figurent parmi les victimes et d'autres corps calcinés n'ont pas pu être identifiés. Cette ville a été la cible de plusieurs attaques et d'offensives des djihadistes du groupe État islamique pour s'en emparer. Les États-Unis ont été endeuillés vendredi par une nouvelle fusillade dans une foule paniquée quand un homme a ouvert le feu à l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant 5 morts et 8 blessés avant d'être interpellé. Geste de folie ou acte terroriste, on ignore encore les motivations du tireur qui a tué 5 personnes et en a blessé 8 autres vendredi dans la zone bagages du 2e aéroport de Floride. Le suspect qui a été interpellé sans résister a été identifié comme Esteban Santiago, 26 ans, un ancien soldat ayant servi en Irak. Il venait de débarquer d'un vol en provenance d'Alaska. Selon le FBI, aucune hypothèse n'est écartée, y compris l'acte terroriste. Les 8 blessés ont été évacués vers des hôpitaux de la région. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.
La météo de votre région sur RVE.
Dans quelques instants sur RVE 103.7, nous retrouverons le sport avec Philippe Carnus. Tout de suite, c'est la météo avec aujourd'hui un ciel qui sera nuageux. Des perturbations nuageuses, pas de pluie, des températures dans la journée de 5 à 6 degrés.
RVE.
Place I go reminds me of you. time I go out, yeah. I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.
Problème d'émetteur une nouvelle fois, hein, comme eh bien il y a trois semaines, on s'en excuse une nouvelle fois, mais enfin je pense qu'il va falloir régler ce problème assez rapidement dans les prochaines semaines. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi en tout cas de vous retrouver, hein, pour cette nouvelle année 2017 version donc sport. On va d'abord accueillir toute l'équipe qui est à notre côté, hein, pour souhaiter une bonne année. On va saluer d'abord Boris. Bonjour Boris, comment ça va ?
Bonjour Philippe, très bien, meilleurs voeux à tous. Et puis bientôt le Prix d'Amérique, là, dans 15 jours, donc on se prépare.
Oui, très bien, tu vas te partager entre les chevaux et le ballon rond dans la semaine.
Il n'y a pas de souci.
Très bien, on va aussi donc saluer notre ami...
Notre ami Francis.
Oui, bonjour notre
Philippe.
Ami Francis. Bonjour Francis.
Meilleurs vœux à tous les auditeurs.
Oui, oui. Oui, Francis. Donc, une belle année de sport. Ça a été une grande année en 2016.
Ouais. J'espère que cette année sera aussi bonne.
D'accord. D'accord, très bien. On va avoir notre ami Pierre qui est avec nous. Pierre, bonjour, bonne année du côté de Marseille.
Bonjour Philippe, bonne année à tout le monde et ravi d'être là en 2017.
Très bien. Allez, le plus portugais de nos consultants, notre ami José Vega. Comment ça va, José ?
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous et bonne année, une très bonne année à tout le monde et on est toujours présent.
Très bien. Le Sphinx, notre ami Edouard Rouvel, comment ça va,
Edouard ? Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux.
Ouais. Et Juliette, donc belle année pour le Paris Saint-Germain.
Oui, une belle année pour le Paris Saint-Germain et puis une bonne année à tous et à tous ceux qui nous écoutent.
Très bien. Alors, on va donc, je l'ai dit, donc commenter une abondante actu foot. On parlera de la Coupe de France. On parlera également de la Coupe de la Ligue, du championnat à mi-parcours. On fera aussi un petit point, un tour d'horizon hein, dans la dernière ligne droite des Coupes d'Europe. Et puis, on va aussi parler du Ballon d'Or. Je voulais simplement compléter l'émission de rétro qu'on vous avait offerte la semaine, donc juste avant de partir pour les fêtes de fin d'année. On va d'abord saluer l'exploit de Thomas Coville en voile, hein, qui a effectué un véritable record du monde à la voile en multicoque, 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes, 8 jours d'avance sur Francis Joyon. On va saluer aussi naturellement la troisième place de l'équipe de France de hand féminine hein, qui avait obtenu cette troisième place en battant le Danemark 25-22, alors que la victoire finale elle est revenue à la Norvège face aux Pays-Bas 30-29. Avoir une pensée pour Ferdi Kubler hein, qui s'en est allé, l'ancien vainqueur du Tour de France à 97 ans. Et puis enfin, une fin de carrière aussi pour Bradley Wiggins à 37 ans, ancien vainqueur du Tour de France en 2012. Les sportifs de l'année, c'est pas une surprise, hein, c'est Teddy Riner chez les hommes et Émilie Andéol chez les femmes. Pour le côté français et puis pour le côté monde, hein, c'est Usain Bolt chez les hommes et Simone Biles, la gymnaste quadruple championne olympique, donc chez les femmes. Et puis on va avoir un petit coucou pour Pierre Ménès qui a eu des petits problèmes, d'énormes problèmes de santé qui semblent plutôt bien se rétablir, donc ça va être long, mais il va y arriver. Et puis on a appris cette nuit le décès du papa de Yannick Noah, Zachary Noah, qui est donc décédé au Cameroun. Alors, je l'ai dit, importante actu Coupe de France. On a eu un petit problème d'émetteur, donc on zappera la pause musicale, comme ça, on aura retrouvé, on sera dans nos timings, mais bon, ça va s'arranger. C'est promis, juré, dans les prochaines semaines. Allez, on va commencer par la Coupe de France. Beaucoup de matchs, messieurs, de reportés. Hein. Alors, est-ce que ça va poser problème ? Nous, on était hier à Saint-Geniez-des-Bois, on s'attendait à vous faire des récits de ces matchs, et puis bah finalement, il va falloir attendre la décision. Match reporté, en principe, à 14h15, mais rien n'est fait. La décision sera officielle pour 11h, Arnaud.
La décision sera officielle. Alors après, visiblement, à Saint-Geniez-des-Bois, le temps n'est pas encore clément.
Ouais.
Fait très froid, il y a encore un petit peu de gel, donc je trouve... Ça me paraît compliqué de jouer ce match aujourd'hui, d'autant plus que plusieurs matchs sont à reporter dans l'Est de la France.
Ouais, ça
on
va.
Verra après la conférence de 11h.
Ça va poser quelques problèmes. Alors, on sait que les Yvinois, cette année, il n'y a plus d'équipe en 32e. Il y avait 3 représentants du foot essonien. Il n'y en a plus 2, hein, puisque hier, l'équipe de Viry-Châtillon, qui jouait au Poiré-sur-Vie, a été éliminée, 3-1. Et qu'il y aura un autre match qui était prévu ce week-end, qui a été aussi reporté. Ça sera un match qui devait se dérouler au stade de Bobin, entre Fleury-Mérogis et l'équipe de Brest. Pour l'instant, donc, match reporté en général vers le 17 ou 18 janvier. Alors, on va écouter ce qui a incité M. Clément Turpin donc, à reporter ce match. C'était juste après l'annonce du report. C'était la conférence de presse donc, de Clément Turpin.
Bien, messieurs, dames, bonsoir. Comme vous avez vu, vous avez pu constater, nous avons pris la décision de reporter la rencontre qui devait se dérouler aujourd'hui à 15h entre Sainte-Geneviève et puis Caen. Les conditions se sont dégradées. Nous avions une météo qui était autour de 0 degré et en surface, les conditions n'étaient pas réunies pour les joueurs, pour la sécurité. Donc pour cette raison, la rencontre sera reportée conformément au règlement demain à 14h15. Les conditions devraient normalement être meilleures. Voilà. Donc je vais passer la parole à l'arbitre de la rencontre qui va vous expliquer les conditions de dangerosité. Et puis, c'est tout ce que je puis vous dire sur ce point.
Merci Didier, bonjour à toutes et tous. Moi, finalement, la question est relativement simple. Est-ce que le terrain aujourd'hui présentait un danger pour l'intégrité physique des joueurs ? Et à cette question, j'ai répondu oui. Pour ceux qui étaient au bord du terrain, vous avez pu constater que le sol était extrêmement gelé, que les appuis des joueurs n'étaient pas assurés. Évidemment, dans cette prise de décision, j'ai pris la décision d'échanger avec les premiers acteurs du terrain, à savoir les joueurs, plusieurs reprises. Je crois qu'un consensus a été trouvé pour dire qu'effectivement le terrain présentait trop de dangers pour la sécurité des joueurs. Par conséquent, on a décidé de ne pas jouer aujourd'hui.
C'est certain que ça pourra jouer demain ?
Oui. Alors comme je suis pas météorologue, je suis arbitre de football. Aujourd'hui, les données qu'on a récupérées annoncent petite amélioration. En tout cas, on ne peut pas exclure cette possibilité. C'est pourquoi on va se donner la possibilité demain de faire un nouveau point.
Le problème, va avoir pris la décision avant l'échauffement.
Tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir, avant l'échauffement, nous étions en tenue civile. Et pour les footballeurs, les footballeuses de cette salle, marcher en tenue civile est complètement différent que de marcher en crampons. Et cramponner, eh ben, finalement, on se rend compte que la prise d'appui est bien plus difficile. Je rajouterai également que lorsqu'on fait le tour du terrain en tenue civile, on le fait en marchant. Et une rencontre de football, vous savez comme moi, se fait en courant.
La décision sera prise à quelle heure demain ?
Alors, un point sera fait à 11h. En présence évidemment d'un représentant de chaque club, de monsieur le délégué de la fédération et du corps arbitral.
Voilà, donc on le sait, donc on attendra 11h pour savoir si on pourra retourner ce week-end à Sainte-Geneviève, suivre ce 32e de finale de Coupe de France, donc entre Sainte-Geneviève, équipe de CFA2, invaincue hein, pour l'instant sur son terrain, et cette équipe de Caen qui est 18e actuellement du championnat de Ligue 1. Alors bon, il y avait un joueur qui était quand même d'accord sur le report de ce match, c'était le capitaine Genovais fin, donc Mamadou Koulibaly.
Mamadou Koulibaly, match reporté à demain à 14h15. La déception est grande, non ?
Oui, la déception est très grande là, à ce moment-là. Mais bon, le match va bien jouer, donc on attendra demain.
Bon, quand on est joueur comme ça, ça ne doit pas être facile de patienter encore 24 heures supplémentaires, surtout quand on attend un énorme événement comme la Coupe de France. La nuit va être longue, on va trouver le sommeil ?
Ben déjà, cette semaine, c'était dur de dormir. Cette nuit aussi. Bon, une nuit de plus. Hein. On espère que c'est la dernière nuit et que le match, on le jouera demain.
Mmh. Voilà. Le rôle de l'entraîneur et du capitaine dans cette cas-là est très important. Il va falloir parler aux joueurs.
Ça va être un moment. Bon, c'est un truc qu'on ne connaît pas. On va essayer de s'adapter et trouver la motivation qu'il faut. Après, voilà. Le match, quoi qu'il se passe, il se passera sur le terrain. Et voilà, c'est sur le terrain qu'il faudra être encore motivé et trouver la motivation qu'il faut. Et voilà, pour faire un gros match.
C'est une décision qui est juste. En tout cas, le report.
C'est une décision très juste.
Ouais.
Très, très juste. J'étais sur le terrain, on essayait de s'échauffer, c'était très très dur. Déjà, on est parti voir le terrain en basket, on était surpris du terrain. Quand on a mis les crampons, c'était encore pire. Après, on a mis les vissés, c'est pas passé.
Voilà. Très bien, bon, moi, à demain, donc, 14h15.
Ok, merci. C'est plaisir, c'est moi.
Voilà, donc à partir de 11h, on vous l'a dit, on va attendre la décision. Beaucoup de reports de matchs. C'est bien ces 32e de finale, José, parce que c'est vrai que c'est difficile pour les clubs pro. Hein. Il faut se mettre dans le bain, il faut essayer d'aller jouer contre des équipes de CFA2, parfois sur des terrains qui sont loin de susciter la passion et l'enthousiasme.
C'est difficile, mais quand se déplace quand même avec pratiquement son équipe type, et donc il se méfie quand même de cette équipe de Sainte-Geneviève. Et je pense que la Coupe de France a un engouement et un goût particulier puisque on a des fois des petits clubs de CFA ou même un peu plus bas qui arrivent à des stades quand même assez hauts. Et donc les équipes professionnelles maintenant se méfient quand même de ces équipes amateurs. Et je trouve que bon, pour le spectacle des fois c'est pas bien, mais il y a quand même de l'ambiance dans les tribunes et c'est ça qui fait le football et c'est ça qui fait c'est pas toujours du beau jeu. Mais ça fait de l'ambiance.
Et puis comme le disait Mamadou Koulibaly, ils ont eu un peu de mal à dormir cette semaine en haut, enfin les joueurs Sainte-Geneviève, ça fait une nuit supplémentaire.
Bah, c'est vrai parce que ils sont habitués, pour des clubs amateurs, c'est quand même une motivation supplémentaire
de leur carrière de footballeur.
De rencontrer des équipes pro et une fois qu'ils sont sur le terrain, bon, c'est du hurrah football parfois, mais ils essayent de donner tout ce qu'ils ont pour faire voir qu'ils existent, quoi, et de donner de la joie à leurs supporters.
Alors il n'y a pas quand même beaucoup de surprises dans ce tour, pour l'instant, pour ses débuts, hein, de ce tour de 32e de finale de Coupe de France. La seule surprise, c'est Reims qui est tombé à Sarreguemines, 2-1. Par contre, sinon, il y a eu deux clubs de National qui se sont imposés devant des clubs de Ligue 2. Hein. Il y a donc Avranches qui a battu Laval 3-1, et puis les Herbiers qui ont battu le CFC Ajaccio 4-3. Sinon, la logique a été respectée d'une façon générale. Hein.
Bah, c'est ça le charme de la Coupe de France, ouais, qu'en fait, des amateurs peuvent battre des professionnels. Mmh. C'est dans le football, il y a que dans le football qu'on voit ça.
Oui.
C'est pour ça qu'on aime la Coupe de France. Mmh. Après, c'est vrai que après les vacances, les clubs professionnels, ils aiment pas trop ces matchs-là. Ils vont dans le froid, ils vont dans la boue. Des fois, ils se font couper les jambes par des amateurs. C'est compliqué. Mais il faut le jouer. Et puis, une fois qu'ils arrivent en quart et en demi de finale, ils adorent la Coupe de France. Et puis, ça donne un engouement. Moi, en tant que supporter marseillais, je peux vous dire que si on gagne la Coupe de France, je serais très heureux.
Mais est-ce que, quelque part aussi, c'est bien qu'une équipe comme Calais, en 2000, qu'on avait suivi, hein, ou Quevilly, en 2012, parvienne en finale de Coupe de France? Est-ce que c'est une bonne chose pour le foot français, quand même?
Non, je vois où tu veux en venir, ouais. Philippe, c'est compliqué, parce qu'après, ils vont en Ligue Europa.
Les amateurs,
voilà. C'est vrai que dans les autres pays, ça se voit pas trop. C'est rare, en Angleterre, en Espagne, en Italie, ça arrive pas. Mais nous, on aime ces épopées. Je veux dire que, rappelez-vous, quand Calais a fait,
on a suivi ça de près, nous.
Il y avait 15 millions de spectateurs devant TF1.
Et puis ils avaient fait leur stage à Clairefontaine. Mmh.
Ça permet aussi peut-être à certains joueurs qui sont moins connus de prendre un petit peu la lumière et puis de se faire remarquer.
Une revanche, parce que certains joueurs ont été refusés des clubs pro. Ça avait été le cas à Calais, hein, où certains avaient été formés à Clairefontaine. Et puis les circonstances de la vie avaient fait que, ils n'avaient pas pu jouer en Ligue 1 ou Ligue 2, et puis finalement, ils avaient pris une belle revanche. Hein.
Et je pense que ce football bourgeoisie, avec ses millions qui prend une proportion totalement incroyable, ça leur fait du bien de se faire battre par des petits, redescendre sur terre un petit peu. Le football est à la base un sport de pauvres. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est complètement pollué par l'argent, donc je pense que pour ces équipes-là, c'est...
Ça apprend l'humilité, ça c'est important, c'est bien. Ouais.
Tous les sports sont bourgeoisie, hein. Écoute, arrête, parce que sinon, il n'y a pas que le football, tu vois le tennis.
C'est la masse populaire quand même.
Ça ramène des sous aussi aux petits clubs.
C'est vrai que la base, elle est populaire, quoi. Même si aujourd'hui, ça touche
tout le monde. Qu'est-ce que c'est que populaire,
Antoine? On a 3 ou 4 sports principaux où l'argent est roi, hein. Le tennis, la Formule 1. Ouais, ouais. Mais après, il faut pas non plus généraliser, parce que il y a des sports qui sont pauvres et puis que c'est vraiment des vrais amateurs.
Mmh. C'est pour ça justement qu'on aime la Coupe de France. Oui, c'est que ça nous rappelle le côté populaire du football.
Bien sûr. Et puis il faut pas oublier qu'ils ont été amateurs tous au début. Hein. Marcel vient des Ulysses, Séverin vient des Ulysses, un des clubs qu'on connaît très près. Donc Anelka de Trappes.
On a encore Rambouillet en Coupe de France.
Oui, ça c'est. On a Alia sur Rambouillet, mais on espère un jour un bon parcours de Rambouillet en Coupe de France. On l'a eu avec Mantes l'année dernière. On l'a vu avec l'année dernière, hein, qu'on avait suivi, hein, qui n'avait pas été ridicule face à Nantes, qui avait été battu 1-0 après prolongation. Mais c'est vrai qu'on rêve que Rambouillet fasse un jour un parcours ne serait-ce que similaire à Saint-Geneviève-des-Bois, ce serait déjà très bien. Allez, Juliette, hier, Parc des Princes, 7-0 quand même, Paris Saint-Germain.
Oui, 7-0, parce que Bastia était inexistant aussi un peu. Hein, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont joué, c'est vrai. Ils n'ont pas fait comme Marseille, ils se sont mis tous derrière pour pouvoir bloquer Paris. Là, ils ont joué, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils étaient épuisés, je les regardais vraiment, on sentait qu'ils étaient fatigués à un moment donné, ils n'en pouvaient plus.
Mais au bout de 5 minutes, c'était déjà épuisé.
Et puis c'était des jeunes, des remplaçants.
Bastia, il y a eu beaucoup de blessés, d'absents, et c'était compliqué.
Voilà, c'était compliqué pour eux, tout à fait.
Alors, ils ne veulent pas descendre.
On va pas cracher sur le 7-0. On a marqué, c'était bien.
Ils ne jouent pas sur la même planète, hein, entre le PSG, je suis désolé, entre le PSG et Bastia.
Oui, non, mais bien sûr, c'est sûr. Mais ils ont joué, ils ont joué, ils ont bougé.
Ils ne sont pas sur la même planète, c'est pas ça. C'est pas le problème, non.
Après, on sait que Paris, à domicile,
ne se laisse pas faire, tout à fait.
Ils mettent des taules à tout le monde, hein. Juste avant la trêve, ils ont mis 6-0 à Lorient. Lorient. Mais c'était Lorient. Oui. Le même niveau que Bastia.
Plus faible.
Plus faible que
Beaucoup
Bastia.
Plus faible.
Non.
Mais Marseille,
au moins ils ont pris un point au Parc des Princes.
Oui, mais comment? C'est pas correct. Non, non, mais c'est pas du jeu.
Il y a Monaco qui a eu
ça s'appelle pas jouer. Ouais.
Oui. Mais ça passe quand même.
Demain, ça passe, mais ça passe.
Oui, mais oui, un point, c'est bien.
C'est le charme de la Coupe de France qu'un petit peu quand même.
Mais non, c'était bien.
Titiller un peu les professionnels.
Mais qui joue à Ajaccio, ça c'était bien. Deux, c'est quand Ajaccio avait son équipe.
Même pour le Paris Saint-Germain, on a pu voir Draxler qui a fait son premier match. Nkunku qui prend de plus.
Ah oui, j'adore ce gosse. Ah oui.
Il est permis de faire tourner l'effectif et de découvrir des jeunes.
Il est formidable,
plutôt intéressant.
Voilà donc pour le chapitre Coupe de France. On vous en parlera naturellement tout au long de ce mois de janvier et février pour le prochain. Donc rendez-vous. Puis on attend, je vous dis, la décision du match donc qui opposera donc Sainte-Geneviève, qui devrait opposer Sainte-Geneviève à Caen. On attend la décision sur 11h. Sinon, bien le match ça sera le 17 ou 18 janvier. Alors on n'avait pas parlé de l'attribution du Ballon d'Or Ronaldo. On devait commencer par ça. Donc, quatrième ballon d'or pour Ronaldo qui s'impose devant Messi et puis Griezmann. Bon, logique respectée. José, on en avait parlé dans notre rétro il y a trois semaines. Logique respectée. Messi, ça fait 5 ballons d'or, Ronaldo 4. Je crois que c'est pas fini. Hein. Ils vont en avoir
d'autres. C'est pas fini. Il y en aura encore entre les deux. Et puis, bon, il y a Griezmann qui pointe le bout de son nez.
Deuxième des
certainement
champions
qu'il en aura
France.
Un jour. Quand on sait pas, mais bon, peut-être, j'espère bientôt. Mais donc, comme tu disais, la logique a été respectée. J'aurais peut-être vu Griezmann deuxième, mais bon, sur la saison, oui, il le méritait amplement. Peut-être, mais en général, la logique a été respectée. Puis Ronaldo, bon, c'est son quatrième. Il est pratiquement en fin de carrière. Il a encore allé, disons, deux, trois bonnes années. Après, ça sera fini. Mais bon, il le mérite amplement sur l'ensemble de sa carrière.
Cette année, il n'y a pas photo. Enfin, oui, en 2016,
il n'y a pas photo. Entre il a gagné la Ligue des Champions, l'Euro. Et bon, il a quand même battu un record de buts et tout ça. Donc, c'est amplement mérité.
Oui, mais je dis, quelque part, au bout de trois ballons d'or, il faut les évincer. Parce que sinon, il y a. Et les autres
non,
vous voyez, il faut attendre 10 ans pour avoir un ballon d'or entre Messi et Ronaldo. Au bout de. Ils dominent,
au bout de.
Les deux ne peuvent pas pousser puisqu'ils sont là.
Non, il y a toujours. Ça a toujours été comme ça.
Au bout de trois ballons d'or, allez.
Non, Juliette. Il y a toujours un ou deux joueurs qui sortent du lot. Vous aviez à l'époque les Beckenbauer, les Cruyff et tout ça.
Donc, et à l'époque, le ballon d'or, c'était les Européens seulement. Hein.
Oui, c'était les Européens seulement. Voilà. Donc, toutes les générations ont un ou deux joueurs exceptionnels.
Oui,
vous avez eu Zidane.
Ballon d'or.
Platini, il a eu trois fois.
Voilà, Platini.
Voilà, trois fois.
Mais Van Basten,
parce qu'il ne pouvait pas l'avoir une quatrième fois.
C'est logique. C'est comme si, quand vous allez à votre travail, bon, à partir de maintenant, vous n'avez plus de rallonge pendant 20 ans.
Eh bien, écoutez, quelque part, ça se passe. Quand vous êtes arrivé au top, vous n'avez plus de.
Le mérite, c'est amplement mérité, même s'il en a 10.
Oui, c'est normal.
Non, je ne suis pas d'accord.
Voilà, donc Ronaldo, et puis peut-être sera-t-il encore Ballon d'Or en 2017. On aura l'occasion de reparler de tiens, l'épreuve préférée à Arnaud, la Coupe de la Ligue. On y vient, c'est les quarts de finale donc cette semaine là qui arrive. Hein. Nancy, Sochaux, Monaco, Bordeaux, Paris Saint-Germain, Bordeaux, Guingamp et Paris Saint-Germain, Metz. Est-ce que finalement il n'y a pas encore un coup à jouer pour le PSG? Bon, alors, c'est vrai que c'est la Coupe de la Ligue, mais c'est quand même une épreuve Arnaud et Juliette. Que vos clubs préférés a quand même gagné trois années de suite. Hein.
Oui,
donc
mais j'ai dit
cette épreuve quand même.
Plus de grands matchs dans cette compétition. Plus de grands matchs. Autant en Coupe de France, on s'amuse parce que les petits peuvent, les très petits peuvent tirer leur épingle du jeu, mais en Coupe de la Ligue, c'est une coupe inutile qui raveuse.
Il y a autant de bons matchs en Coupe de la Ligue qu'en Coupe de France. Hein. Arriver à un stade avancé de la compétition.
Excusez-moi, mais moi, voir un match entre l'équipe bis du Paris Saint-Germain et le FC Metz.
Oui, bien sûr.
Non, mais aujourd'hui, il y a la nouvelle règle aussi où il n'y a plus les prolongations. Ça sert quand même à faire des plus beaux matchs.
Oui,
on va tout de suite au pénalty.
Ça fait des plus beaux matchs, mais au final,
il n'y a pas de prolongation. C'est quoi ça?
C'est aussi bien qu'il n'y ait pas de prolongation parce que comme ça, les joueurs ne se fatiguent pas, ils ne se blessent pas.
Match aller-retour.
C'est peut-être pour la différencier de la Coupe de Ligue. C'est peut-être pour la différencier de la Coupe de France.
Les deux équipes ont leur chance.
C'est peut-être pour la différence.
Oui, mais avec le calendrier, c'est compliqué.
Déjà 90 minutes de Nantes-Nancy, c'est compliqué à regarder. Alors 120 minutes de plus, c'est fait pour s'endormir.
Non, mais d'accord, mais quand tu les vois en Ligue 1, tu les regardes, les matchs Nantes-Nancy.
Oui.
En Coupe de la Ligue aussi.
Je suis pas sûr que le match soit plus mauvais en Coupe de la Ligue qu'en Championnat pur.
Exactement.
Absolument.
Oui, mais le Championnat de France, c'est mauvais.
Moi, ouais, justement, le championnat de France, je pense qu'il faudrait faire comme au rugby et mettre un bonus, par exemple un point de plus.
Tout à fait.
Et peut-être qu'on s'embêterait moins. Tu gagnes par 3 buts d'écart, je sais pas, t'as un point de plus. Et là, les joueurs, et même le club, ils joueraient, ils s'amuseraient pas à jouer la défense ou à pas faire de spectacle, parce que faut quand même penser que les gens vont au stade et qu'ils payent un billet. Bon, pour certains, ça fait des sacrifices parce que quand même certaines places dans certains matchs sont hors de prix, donc il y en a qui se privent, et donc pour aller voir des spectacles des 0-0 et à toi la balle et à moi la balle, c'est pas bien. On ferait bien de réfléchir à cette chose là puis d'essayer de mettre ça en place. Au rugby, il y a des très bons matchs au rugby, donc avantage à l'attaque et puis voilà, un bonus. Et ben on devrait s'inspirer en football et essayer de faire un truc dans ce genre là.
Quand on va à Nancy, à Metz ou des équipes comme ça où la place est à 5 euros, ça peut aller, mais quand on paye 50 euros une place pour aller voir PSGOM et voir un 0-0, une qualité de jeu imposée par les Parisiens et surtout par les Marseillais, c'est vrai que ça peut faire mal.
Oui, ça c'est le championnat, hein. Ouais, c'est vrai que bon. Donc on va rappeler quand même les quarts de finale qui arrivent les 10 et 11 janvier cette semaine. Donc Nantes, Nancy, Sochaux, Monaco, Bordeaux, Guingamp et Paris Saint-Germain-Metz. Marseille a été battu quand même, Pierre, par Sochaux, 1-1 et 4-3 au tir au but. On a eu quand même Bordeaux qui a battu Nice 3-2. On a vu Nancy qui est allé gagner à Saint-Étienne 1-0. Et puis Lyon qui a été battu 2-2 et 4-3 au tir au but contre Guingamp. Ça veut dire que et Monaco qui a battu Rennes 7-0 et PSG qui a battu Lille 3-1. Ça veut dire qu'il y a quand même des grosses équipes qui ont délaissé cette coupe.
Oui, parce qu'après ils jouent sur d'autres tableaux ces équipes-là, donc ils font tourner leurs effectifs, et puis les équipes qui viennent, ils ont aucun complexe parce qu'ils se disent cette coupe, on la joue, mais on la joue pas à fond, et puis ils sont délivrés, et puis ils font des bons matchs, et les remplaçants font des bons matchs parce qu'ils veulent se montrer, et du coup moi je trouve que ça donne des matchs enlevés. Je me rappelle comme Sochaux Marseille, c'était un beau match.
Oui,
on l'a perdu au tir au but malheureusement, mais c'était un beau match. Monaco, ils ont mis une volée à Rennes 7-0, c'était un festival offensif. Moi, la coupe de la Ligue, je trouve que c'est une belle coupe. Je suis désolé, en Angleterre, ils font pas de trêve et ils jouent deux coupes.
Ça n'a pas l'antériorité de la Coupe de France, l'histoire de. Voilà, ça n'a pas l'antériorité de la Coupe
Bien
de
sûr,
France.
Mais... Ça n'a pas le même charme. Mais arrivé en demi-finale, je peux vous dire que toutes les équipes elles jouent à fond.
Oui, ils sont pareils que la Coupe
et
de France.
En plus, ça permet à Rambolitain de marquer au parc. Ouais. Ludovic Blas qui a marqué un très beau but. Je crois que c'était à Mathieu Gorgelin, le deuxième gardien lyonnais.
Voilà, et puis on va rappeler que tiens, il y a eu comme un moment une belle série de tirs au but, puisque Toulouse-Metz c'était 1-1, et puis la victoire de Metz 13-11 au tir au but, ça arrive parfois. Allez, on a parlé de la Coupe de France, on a parlé de la Coupe de la Ligue, on a parlé du Ballon d'Or, on va parler du championnat, Juliette, à mi-parcours.
Donc
on va faire un petit point sur là. Eh ben Nice, ils sont toujours champions d'automne. Nice, ils sont champions d'automne, 44 points. Alors je vais vous donner le classement, puis après on détaillera à mi-parcours. Monaco est à 2 points, 42 points. Paris Saint-Germain, Juliette, 3e, 39 points, 5 points de retard sur l'OGC Nice.
C'est pas grand-chose.
Donc, ces trois équipes qui se sont détachées, que se passe-t-il au PSG?
Il se passe simplement que le PSG joue et il veut jouer toutes les coupes, et le PSG va gagner toutes les coupes. Comme les années précédentes. Et le PSG va aussi faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer en Ligue des Champions. Je crois que
on va en parler tout à l'heure.
La coupe d'automne, c'est très bien, mais bon, on a déjà la coupe des champions qu'on a gagnée au mois d'août. Ensuite, on aura les trois autres coupes, là, championnat, ligue et puis Coupe de France. Et puis voilà, la Ligue des Champions, on va faire le maximum. Là, on est équipé maintenant, ça va. Il manque peut-être quelqu'un pour aider Cavani si toutefois il est blessé.
Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont à leur niveau? Parce que Cavani, oui, d'accord.
Ils sont tous à leur niveau, simplement.
Di Maria, par exemple, il est transparent quand même.
Écoutez, arrêtez avec Di Maria fantomatique. Mais il a marqué deux buts de deux matchs coup sur coup. Enfin, là, il a marqué un but la dernière fois, il a marqué un but hier. Vous avez besoin de quoi? Qu'il fasse des gris-gris pour pouvoir marquer un but et qu'il joue au football. Quand Di Maria joue, vous avez trois joueurs sur son pied gauche. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte avec? Il est obligé ou de tomber ou de se sortir d'une situation.
Trois joueurs sur son pied gauche.
C'est son pied gauche que les joueurs attaquent. Ils ne cherchent pas à jouer le match.
65e minute, on a juste envie d'une chose, c'est que quand le latéral droit, par exemple, qui était Thomas Meunier hier, envoie une passe en profondeur, c'est qu'il se batte, qu'il aille chercher la balle. Il est fantomatique. Il regarde le ballon passer, tout simplement.
Mais il le regarde passer parce que il a des gens qui l'empêchent de passer aussi. Mais écoutez, arrêtez de taper sur Di Maria, je vais me fâcher. Et puis en plus, vous en faites toute une histoire.
Il manque quand même un moteur. Oui. L'année dernière, on avait Ibrahim. Cette année, il manque un moteur pour pouvoir
les choix tactiques quand même. Parce que, Matuidi en position de faux ailier gauche, hier Ben Arfa avant-centre.
Après, c'est un choix d'entraîneur, c'est Gris qui fait ses choix, il a pas les mêmes que Laurent Blanc, mais je vous dis
apparemment ça a été bénéfique hier cette saison.
Il faut pas confondre le match de Bastia hier avec Paris,
à force de faire des essais, il arrive à un moment c'est gagnant, c'est normal, mais bon, faut dire qu'hier, bon, hier c'était que Bastia, attention.
Alors José et Francis, Nice peut jouer les troubles faits, Monaco est là aussi sur tous les tableaux comme Paris.
Je suis étonné de la performance niçoise parce qu'au Parc je trouve que sur la première mi-temps
ils méritaient
au moins le match nul, il me semble. Il y a des joueurs qui jouent au ballon, il y a véritablement, ça a l'air de durer dans le temps, donc c'est là que je suis surpris en fait, avec des moyens relativement raisonnables. Je pensais que l'effet Balotelli allait faire feu de paille, c'est pas le cas. Après ensuite Monaco, ils ont vraiment un jeu super sympa, ils pètent tous les compteurs au niveau de donc je crois, bon après PSG c'est une mécanique un peu diesel. Je pense qu'ils vont et là tout est en train de se mettre en place. Par contre, je suis quand même très surpris sur le fait de faire jouer Ben Arfa même contre Bastia poste d'avant-centre. Je comprends pas.
C'est vrai que
on pourrait au moins tenter deux fois de suite de le mettre à un poste d'organisateur. Pastore est blessé, Di Maria marche à côté de ses pompes. Je pense que quand même. Oui, mais ça a été fait dans un contexte où il est arrivé, où il a fallu qu'il se mette en place.
Qui t'aurait mis à la place de Ben Arfa
à la place de Ben Arfa avant-centre. Je sais pas, il n'y a pas, bah, il y a pas de
blessé. Non, mais il est blessé.
Il n'a pas joué.
Augustin,
il a joué mercredi contre le club africain.
C'est pas parce qu'il a joué mercredi qu'il peut pas être blessé.
Il
n'est
pas blessé, c'est qu'il est hors d'instance de départ, il va être prêté.
Il a joué mercredi, il est blessé, il y a un problème.
Et il laisse pas à Paris, on laisse pas sa chance aux jeunes. Mais quand on voit Kingsley Coman qui est aujourd'hui au Bayern Munich, Hudson Edouard, il est prêté à Toulouse. Jean-Kévin Augustin, il va partir.
Mais on peut pas tous les garder non plus.
Paris, ils ont une des meilleures formations de France et ils l'utilisent pas. On garde les meilleurs et on prête les autres.
Non, mais là, on pourrait faire jouer les joueurs à leur poste, quoi. Je trouve que ça serait plus efficace.
Francis.
Nice, c'est un peu la surprise Nice, mais moi j'ai cru lire dans les journaux qu'ils allaient casser leur tirelire pour avoir du renfort cet
attention,
hiver.
Éliminer de l'Europa League, éliminer de la Coupe de la Ligue, ça peut être un avantage.
Tout à fait,
ils sont déjà éliminés.
Il
n'y
a qu'une compétition.
Ils vont avoir que le championnat à penser.
Il y a Monaco qui, à mon avis, va faire très mal.
Je ne veux pas être défaitiste, mais on retrouvera les deux premiers. On retrouvera PSG, Monaco. Lyon qui sera dans les 5 premiers.
On est mi-janvier, José.
Entre nous, je dis que Nice ne sera pas champion de France.
D'accord.
Peut-être pas, mais je verrai bien Monaco, moi. Par contre,
ça se jouera entre Monaco et PSG.
Ce qui est important, à mon avis, c'est l'inconstance de Cavani. Parce qu'on dit qu'il a mis 18 buts, mais il y a des matchs où il en met 3 et des matchs où il rate tout ce qu'il veut.
Il ne peut pas en mettre 3 à chaque fois, non plus.
Peut-être, mais je pense qu'il aurait besoin d'un compatriote ou d'un compagnon à côté de lui.
Parce que
parisienne qui me paraît dépendante de Cavani.
Ouais, parce que lui aussi, il fatigue.
Et il y a PSG Monaco, me faisait remarquer, Arnaud, le 29 janvier.
Ça va faire office de finale pour le championnat. Je pense que l'équipe qui va gagner va prendre un avantage psychologique et au niveau du classement sur l'autre.
Alors ensuite, il y a le trou. Lyon est 4e, 34 points. Bon, Lyon alterne bon et le moins bon. Et puis 5e, il y a deux équipes. Il y a Guingamp qui fait quand même une saison assez étonnante. Parce qu'on a vu, ils sont encore là aussi en Coupe de France et de la Ligue. Et puis, il y a Marseille qui remonte, Pierre. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Marseillais. Bonne remontée, donc 30 points, 6e.
On a fait une bonne phase de première partie. Rudy Garcia, on savait tous, vous l'aviez tous dit ici quand il est arrivé, c'était un bon choix. Là on est resté sur 4 victoires consécutives en championnat. On attend un peu de renfort peut-être au mercato, ça a du mal à se faire, mais on sait que ça se décante surtout en fin de mercato, donc on verra, parce qu'il y a des postes à pourvoir, notamment arrière gauche. Mais si on continue sur cette lancée, je pense qu'on peut accrocher la 5e place, voire peut-être mieux, on verra. Et moi j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer d'accrocher une place sûre en Europa League en gagnant la Coupe de France. Voilà. Mais c'est vrai que il y a du mieux dans le jeu. Le petit Maxime Lopez, c'est une très belle satisfaction. Et puis après, voilà, il y a des manques. Thauvin, il fait une bonne saison. En plus, il a l'amour de l'OM. On le sait, il a baissé son salaire pour revenir et c'est une satisfaction.
D'ailleurs, c'est bizarre de voir Florian Thauvin avoir l'amour d'un club comme ça.
On a vu ce qu'il avait fait à Lille.
Après, ça, c'est justement, il était parti pour l'amour de Marseille.
Ouais, mais... Le gars, il a dit, il avait 18 ans. Le mec, il prend un salaire 300 000 euros à 18 ans. Il a pété un câble. Il va revenir. Moi, j'aime pas ce joueur-là. Mais force est de constater quand on le regarde jouer, il a des qualités, quoi. Et la France a besoin de ces joueurs-là. Donc un gars comme ça, d'ici un an ou deux, il peut crever l'écran, être en équipe de France et nous apporter énormément de bien. Et moi, j'étais le premier à le critiquer, mais je pense qu'on peut pardonner aussi quand on a 18, 19 ans, qu'on voit des sommes d'argent extraordinaires. Que tous les clubs sont sur ces gars-là, eh ben on peut leur donner une ou deux chances. Voilà, il a brûlé ses deux jokers et je pense qu'aujourd'hui il peut peut-être apporter quelque chose. Et encore une fois, j'étais le premier sceptique au départ.
Aujourd'hui, quand on voit l'OM qui est sixième en étant porté par seulement deux joueurs qui sont au niveau, c'est Thauvin et Lopez, comme l'a dit Pierre. Je demande à voir ce que va donner le projet après avoir recruté. Honnêtement, ça pourra faire très mal la saison prochaine à Marseille.
Bah on verra, ils ont dit qu'ils dépenseraient tout leur argent au mercato d'été surtout. Voilà, donc on verra. Là ça va être peut-être 2-3 joueurs d'appoint qui vont arriver. Mais si on accroche les 5 premières places, déjà je peux te dire que ça sera une satisfaction. Parce que quand tu voyais le début de saison, on avait peur un peu.
Honnêtement, je suis plutôt confiant pour Marseille. Ils ont recruté Zubizarreta comme directeur sportif. Et c'est toujours mieux
déjà que PSG, par exemple. Mais je pense qu'ils ont un homme de classe et de qualité à la tête de l'effectif, Garcia, Rudy Garcia, qui a fait ses preuves à Lille, qui a fait ses preuves à Rome. Et je pense que c'est quelqu'un qui va stabiliser le club et qui va faire un bon recrutement si on lui en donne les moyens. Et je pense qu'il va emmener Marseille vers les sommets.
Alors donc ensuite Rennes est 7e, 28 points. Bon bah Rennes c'est à peu près à son niveau habituel. 8e Saint-Etienne et Toulouse avec 26 points. Tiens, j'aurais bien aimé que Bibi soit là, parce que c'est vrai que les Verts font une saison assez moyenne quand même.
C'est pauvre dans le jeu.
Je
me rappelle,
c'est assez moyen.
On en a parlé déjà à l'émission du 4 décembre. Je me rappelle de lui, il disait qu'on s'emmerdait. Il avait totalement raison. En fait, il manque un attaquant. Beric, il a été blessé. Il est tout le temps blessé. C'est un bon attaquant. Mais sinon, derrière, Söderlund, c'est trop faible. Et puis, franchement, j'aimerais pas être supporter des Verts cette année parce que, à Geoffroy Guichard, on s'ennuie.
Mais ça fait quelques temps qu'on s'ennuie à Geoffroy Guichard. Parce que les années précédentes, il y avait les résultats, mais on s'emmerdait quand même un peu.
Oui. Mais là, bon, les résultats sont.
Là, il n'y a pas les résultats en plus. Alors, je pense que Galtier a fait son année de trop.
Bordeaux 10e, 25 points. Bordeaux qui remonte un peu légèrement la pente, qui joueront le milieu de tableau. Je pense qu'ils sont à leur niveau. Pareil pour Montpellier, 11e avec 22 points. 12e, Lille et Nancy, 21 points. Ils ont bien remonté quand même. Parce que c'est vrai que l'entame de championnat avait été difficile pour eux. Ils ont pris quelques points. Ensuite, on a Bastia 14e, 20 points. 15e, Dijon, Angers et Nantes avec donc 19 points, même si Nantes a un match en moins. 18e, Caen avec 18 points. 19e, Metz, puisque Metz a perdu 2 points, donc Metz avec 17 points. Et le 20e, Lorient, qui semble déjà condamné avec 15 points.
Ça va jouer entre Lorient, Metz pour descendre, et puis peut-être Dijon, même s'ils ont un beau jeu, et Bastia, qu'on a vu hier quand même faible. Sauf que cette année, il n'y a que deux équipes qui descendent. Il y a un barragiste. Donc ça peut aider beaucoup d'équipes quand même. Donc ça va être serré. Nantes, avec l'arrivée de Sergio Conceição, fait une petite remontée. Et Lille, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur également, et puis ils sont remontés aussi. Donc ça va être difficile, mais c'est vrai que Lorient,
Lorient est condamné. Ça va être difficile pour Lorient.
Ils ont changé d'entraîneur également, Casoni. Je l'ai entendu.
Avec le
ça va mieux, mais là il a dit qu'il voulait bétonner maintenant. Est-ce que c'est l'identité de jeu de Lorient? Compliqué.
Identité de jeu d'un club banal de Ligue 1.
Ouais, mais en plus Casoni n'a pas fait d'étincelles, très honnêtement. À chaque fois, partout où il est passé, il a laissé des casseroles.
C'est propre d'aller chercher un entraîneur à pas cher, dont la mission est d'essayer de faire de sauver un club qui est en péril depuis quelques années, comme le seront l'année prochaine des clubs comme Caen, comme Dijon, comme Nantes, comme Angers. Voilà, c'est le lot quotidien de notre championnat.
Très bien, je voulais simplement vous dire en aparté que de cette émission Tribune Foot, il y a le marathon des usines aujourd'hui. C'est le premier gros événement de l'année 2017. Les concurrents sont partis à 8h45, ceux du semi-marathon à 9h et ceux des 10 km donc à 9h15. On sera là-bas donc à Cernay pour vous ramener quelques interviews après cette émission et on vous fera le compte-rendu de ce premier gros événement sportif de l'année 2017 dans notre région, dans l'émission Tribune Sport de dimanche prochain. Bon, la Coupe d'Europe, messieurs. Là, faut surtout bien cocher ces dates pour février, parce qu'il y a des sacrées belles affiches. Le Paris Saint-Germain, Juliette, on en parlait lors du mois de décembre, on s'est dit, ils vont terminer premier, et puis 2-2 contre Ludogorets. c'est presque le match de la honte, c'est une grosse déception.
Oh, mais non.
C'est pour la faire un peu.
Enfin, oui. Mais n'empêche que si on était sorti premier, on tombait sur le Bayern.
C'est vrai que là.
Je préfère jouer Barcelone que jouer le Bayern. Tout à fait.
Donc, du coup, je pense que c'est pas mieux.
Je préfère jouer Barcelone que, parce qu'il y aura du jeu, il y aura quelque chose. Parce que le Bayern, j'ai pas confiance.
Barcelone, c'est la bête noire quand même.
Oui, mais la bête noire, on va l'approcher et puis on fera ce qu'il faudra.
C'est la bête noire qui est en difficulté depuis le début de la saison.
Oui, à un moment donné.
Attention quand même.
Barcelone, c'est la bête noire de beaucoup d'équipes.
C'est même la bête noire de Real.
Bien sûr, au final, ce match-là, il y aura absolument rien à perdre. Paris peut très bien. Si Paris gagne un but au match aller,
il y aura un beau match et puis voilà. Non.
Il y a absolument rien à perdre.
Disons que c'est du 50-50. Bon. Mais je vois plus. Pourtant, je suis supporter du PSG, mais je vois plutôt un 60-40 pour Barcelone.
Ah non, c'est du 99-1 pour Barcelone.
Il
y a quand même petite chance de passer, mais bon, elle est vraiment.
Enfin, bon,
Barcelone est troisième comme nous. Ils sont pas premiers dans leur championnat. L'Europe noire, c'est le Real.
Troisième en Espagne, le PSG est troisième en France. Là, c'est absolument.
Mais oui, mais on est toujours troisième. C'est le chiffre 3. C'est tout.
Est-ce que nous, on a Messi, Suarez, Neymar, on a un Cavani qui est tout seul avec un Di Maria fantomatique.
Bah écoutez, vous voulez remplacer Nasser et faire des choses à sa place. Allez le voir et puis dites-lui ce qu'il doit faire.
Dès la fin de l'émission, je l'appelle.
Vous lui faites envoyer un courrier, il va vous recevoir, vous lui dites voilà, prenez telle personne.
C'est peut-être Nicolas Sarkozy qui va être président du Paris Saint-Germain maintenant. Alors.
Non, mais c'est vrai que pour revenir à ce match, je pense que le PSG, depuis qu'ils ont perdu Zlatan, ils ont perdu toute chance de se qualifier parce qu'il manque un taulier. Alors je veux bien qu'il y ait Traxler ou Lo Celso qui
sont venus. Et Dieu seul sait si vous avez critiqué Zlatan, vous l'avez humilié, vous l'avez insulté quelquefois. Et maintenant tout le monde. Les journalistes, les médias, les consultants et tout ça. Et maintenant, tout le monde ne voit que par Zlatan. Maintenant, je vois que par Cavani.
Était quand même avec un autre charisme sur le terrain.
Mais oui, mais maintenant, il y a Cavani, il n'y a plus Zlatan.
Cavani, c'est bien de marquer des buts en Ligue 1, mais après, il va falloir marquer des buts contre Barcelone.
Voilà, en tout cas, 2-2 contre
Lugo. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'étiez pas dans le vestiaire pour savoir qu'il menait le club.
On a des infos.
En tout cas, 2-2
contre Lugo. Oui.
Ludo Goretz, ça fait que Paris Saint-Germain termine pour la troisième année consécutive deuxième de sa poule. Monaco a été battu pour le dernier match contre Leverkusen 3-0, mais Monaco finit premier de sa poule et jouera Manchester City. Là aussi, match pas facile, mais on s'y attendait en huitième.
Ça va être un peu compliqué, plus mais bon, pour l'instant, les équipes anglaises réussissent bien à Monaco. Je pense qu'ils peuvent faire un truc. Peut-être là-bas, ça va être un peu compliqué. Je pense qu'à Louis II, ils peuvent faire un bon match. Et
on va pas
ça dépend du match qu'ils feront.
On va pas imaginer quand même nos deux équipes françaises sorties au stade des huitièmes quand même.
J'espère bien que non. J'espère bien que le PSG va passer, puis Monaco aussi. Pour le fun, c'est très bien.
Bon, Lyon, Séville 0-0. Bon, Lyon a pas été ridicule dans tous ces matchs. Ils terminent quand même 3e. Ils seront reversés en Europa League. Ils joueront contre Alkmaar. Bon, c'est peut-être l'équipe qui a le meilleur tirage au sort de ces Coupes d'Europe. Mais il n'y a pas manqué grand-chose à chaque fois à Lyon.
Oui, enfin Alkmaar, je me souviens, alors c'est d'un autre temps, Sochaux les avait joués.
AZ67,
et ça n'avait pas été une partie de plaisir.
Non.
Donc c'est à l'image un peu du championnat. Moi, je reviens sur Paris 2-2 contre Lugo Doretz, c'est quand même.
Oui.
Non mais il y a un moment, si Paris ambitionne de gagner la Champions League, il y a un moment, ce genre de match, on peut pas passer à côté.
Il voulait finir deuxième.
Non, peut-être. Si c'est ça.
Bah écoutez.
Franchement,
toute personne qui a fait du sport un jour jamais m'admettra dire je veux finir deuxième. T'es sportif.
Le match à Arsenal, il devait le gagner 10 fois. Bon bref.
J'ai vu des clubs se coucher devant d'autres clubs pour leur laisser gagner le championnat.
En regardant le match qu'on a vu avec Paris, ils n'ont pas réussi à gagner, c'est tout.
Donc ils n'ont pas réussi à gagner.
En Coupe d'Europe, on finit troisième de la Champions League, on est reversé en Coupe d'Europe. C'est à qui perd gagne. Moi, je comprends plus ce football-là. Je comprends pas. On finit troisième, on est reversé et tout. C'est du business en fait.
Oui, c'est que du business ça quand même.
Ouais, mais c'est Ou la compétition, ça veut dire quelqu'un qui a fini 3e et est éliminé à Champions League va pouvoir gagner la Coupe d'Europe.
C'est déjà arrivé.
Donc c'est déjà arrivé.
Oui, je crois que c'est arrivé.
Donc en fait, c'est une grande machine à laver.
C'est
une grande machine à laver. On remet du linge sale pour en faire du propre. Moi, je trouve c'est pas. Je trouve pas intéressant. Très honnêtement, la Champions League est au-dessus de tout. Et ce que je trouve moins intéressant, vous allez voir, on est en train, je pars de Witzel, je pars de Oscar, des gens comme ça. La Ligue des Champions, si on change pas les choses, va devenir la seconde division du football. Vous allez voir que dans 5 à 10 ans, ce qu'on regarde aujourd'hui en Champions League, on ira la voir en Chine ou ailleurs, et que la Ligue des Champions d'aujourd'hui sera la seconde division. Donc autant vous dire que le championnat de France, ça sera peut-être la 3e ou la 4e division.
Ouais. Alors on en parlera en antenne, Boris, de ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je vais te donner des exemples. Dans les années 70, les États-Unis ont voulu faire un championnat, ça n'a pas fonctionné. Le Qatar a voulu faire un championnat, ça n'a pas fonctionné. Ça a duré 2-3 ans. L'Inde a voulu faire un championnat, ça n'a pas fonctionné. Pierre. Moi, je crois que la Chine, ça va. Les joueurs, ils vont y aller parce qu'il y a des sommes d'argent. Ouais, bien sûr, qu'il y en a qui vont craquer. Moment, ouais. Mais il y a toujours des joueurs qui savent que le ciment du football, c'est en Europe.
Pierre, à l'époque, le Cosmos, quand il attire Pelé et puis Beckenbauer, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent pour avoir 11 joueurs. Aujourd'hui, les Chinois ou d'autres pays peuvent s'acheter tous les joueurs qu'ils veulent.
Tu trompes Boris parce qu'en fait, ils ont le droit d'avoir que 4 joueurs et extra-communautaires dans leur équipe. Et donc, ils peuvent prendre que 4 étrangers.
D'accord, aujourd'hui. Voilà. Comme nous, à une époque, au niveau de la loi européenne.
Donc, je vais vous donner.
Après, ça dépend aussi comment on retient les joueurs. Il y a eu une proposition d'un club chinois pour Ronaldo entre 300 et 400 millions. Et il a préféré rester au Real.
Ronaldo, ce genre de joueur, respecte le football et n'ira pas en Chine.
Voilà.
Il ira pas en Chine tout de suite.
Oui, peut-être en fin de carrière.
C'est tout à son honneur. Après, c'est vrai
qu'il ira au moment où il sera terminé, il sera en fin de carrière.
Au moment de sa fin de carrière.
Bon, je vais vous rappeler quand même le problème de ces huitièmes de finale. Il y a des matchs complètement disproportionnés. Il y a des matchs qui reviennent souvent et d'autres un peu plus disproportionnés. Donc PSG Barcelone, Benfica Dortmund, Real Madrid Naples, belle affiche quand même. Bayern Munich Arsenal, c'est un match qui revient encore souvent. Ouais. Comme le PSG Barcelone, on peut quand même se poser des questions. Hein. On peut quand même se poser des questions. Leverkusen Atlético de Madrid, Séville Leicester, Porto Juventus, ça aussi ça match revient souvent. Et puis Manchester City Monaco, voilà. Donc les affiches.
Il y a quand même des belles affiches, notamment Benfica Dortmund.
C'est pour ça qu'il faut redire la soirée de février. Hein. C'est ce que je veux
dire. Ouais, voilà, c'est ça. Bah ça commence le 14 février.
Ouais, ouais. Hein, voilà. Et puis en Europa League, donc Bibi est pas là, mais Saint-Etienne est allé s'imposer à Anderlecht 3-2. Ils ont terminé premier de leur poule et ils joueront Manchester United, le club d'Ibra.
Mais voilà.
Là aussi, autre belle affiche.
Et Ibra va retrouver Saint-Etienne.
On va retrouver les grandes soirées de Geoffroy Guichard.
On disait que Geoffroy Guichard s'ennuyait, bah là, ils doivent être ravis parce qu'ils vont voir Manchester venir. Au chaudron. Et puis je suis sûr que, connaissant les Verts, leur combativité, ils vont tout donner et ça va peut-être pas être serré, mais au moins ils vont mouiller le maillot, c'est sûr.
Voilà, et puis bon, bah Nice éliminé naturellement, malgré sa victoire contre Krasnodar 2-1, Nice éliminé 4e.
Et malgré qu'il soit premier au championnat.
Oui, éliminé donc de cette Europa League, comme Lille l'avait été au tour précédent, puisque Lille avait été éliminé au tour préliminaire. Bon, on peut espérer quand même que nos clubs poussent un peu loin cette année en Coupe d'Europe, peut-être Lyon.
Oui, Lyon a le plus de chances, normalement, parce que. Si ils doivent battre Alkmaar normalement, et après s'ils ont un peu de chance au tirage, ils peuvent vite arriver en demi-finale.
Après il y a les 8e écart, il y a un tour de plus quand même.
Oui, bien sûr.
Donc, bon.
Après moi je pense que Monaco peut faire l'exploit contre City. City sont pas
obligés. C'est le match équilibré. Hein.
Voilà.
Plus équilibré.
Et puis ils reçoivent le deuxième match.
Le problème,
après je pense que Paris s'est joué d'avance. Barcelone est au-dessus.
Au moment du tirage au sort, je te dis oui, Monaco peut sortir City. Et j'ai l'impression que plus le match va approcher, plus City va remonter en niveau. Monaco risque de faiblir un petit peu.
Peut-être, t'as raison, mais on sait pas. Tu dis ça comme mais on sait pas encore.
J'espère que le jardin
et Paris va monter aussi.
Monaco a fait le tour préliminaire quand même. Hein. Ils sont là, c'est bien.
Ce qui m'ennuie aussi, c'est que quelque part, en France, on ne soutient pas les clubs français. On a des clubs qui sont, qui vont pour la Champions League. Les Français ne soutiennent pas leurs clubs. Regardez en Italie, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne, ces clubs-là sont toujours.
Non.
Ils sont toujours au moins 4 ou 5 à être dans le.
Ils sont toujours 4 ou 5, je suis d'accord quand on dit que les Français ne supportent pas leurs clubs français, mais là où. Enfin, on ne va pas les comparer avec l'étranger.
Mais on ne peut pas les comparer, puisque Platini les a mis en tête, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne, ils sont en tête du classement UEFA et FIFA, et que ces gens, ces clubs-là, ils seront toujours 4 ou 5. Regardez, ils ont fait une nouvelle règle, et bien là, ils vont avoir 4 clubs dans ces 4 pays, ils auront 4 clubs pour se présenter au championnat. La France n'aura que 3. Enfin, non, je suis pas d'accord.
C'est le niveau du championnat, il est pas au niveau des 4 championnats.
On remet tout à plat, parce que ça, c'est la faute à Platini. Et on remet tout
c'est
à plat.
C'est la faute aux clubs français qui n'ont pas le niveau.
On remet tout avant à plat, tout, avant et maintenant, ouais. On repart tout
c'est la loi du terrain avant tout. Sur nombre de points FIFA,
les points FIFA seront toujours comme ça, et on sera jamais dans l'élite. On sera toujours 5e ou 6e.
Je pense qu'à Monaco, il n'y a pas la même mentalité que les autres équipes françaises.
Mais Monaco n'est pas une équipe française, pour commencer.
Et je pense qu'ils ont un autre état d'esprit que les autres équipes
françaises. Parce que Monaco n'est pas français. Voilà. Pourquoi Monaco est dans le championnat français? Je ne suis pas d'accord. Alors, ils touchent les droits de TV, ils touchent de l'argent en France, et puis ils sont là à prendre de l'argent, et ils ne donnent rien. Je suis désolée.
Mais Juliette, on fait la même chose à Paris. On a été racheté par les Qataris, on est dans le championnat
français. Mais on est en France. Monaco n'est pas
Et Monaco, on fait quoi, les Russes?
Ils sont achetés par les Russes. Vous savez ce qu'ils prennent pour jouer en ce moment?
Je viens de dire juste avant que le football, c'est du business, donc il y a de l'argent.
Alors, Monaco, c'est les Russes. Nice, c'est les Chinois. Lyon, c'est les Chinois. Marseille, c'est les Américains. Bah écoutez, allons-y.
C'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est la mondialisation. Le football est à l'image de la société.
Le football français qui est grand, aujourd'hui on est racheté par des Qataris, des Russes, des Américains.
Parce que vous pensez qu'en Italie et en Espagne ils ne sont pas achetés aussi par les Qataris Ils ont 4 équipes, ils ont 5 équipes qui se présentent en Ligue des Champions, nous on n'en a que 3. Moi je ne suis pas d'accord.
Il y a 10 ans, quand Lyon était au top niveau européen, si on avait continué sur cette lancée, s'il y avait eu un deuxième club français qui était venu se rajouter dans la danse européenne, et bien peut-être qu'on aurait la même chose en France, sauf que depuis 10 ans on n'a eu absolument aucun résultat. Maintenant, il faut changer la donne. Marseille a fait un quart de finale aussi. On arrive à compter le nombre de quarts de finale en 10 ans. C'est quand même grave pour le foot français.
On arrête les points là maintenant et on repart tous à zéro.
Juliette, c'est technique en fait. Si tu veux, il y a des problèmes de. C'est pas les mêmes fiscalités. On peut pas jouer sur les mêmes tableaux.
C'est pas les mêmes fiscalités. On donne 40 millions à l'État en France. Paris donne 40 millions. C'est pas les mêmes fiscalités. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent, les 40 millions qu'ils ont touchés de Paris?
50 millions de.
Où ça?
À l'État français.
À l'État français, mais pas pour les petits clubs.
Ça va pas dans les petits clubs. Juste 2 minutes, il y a un projet de Coupe du Monde à 48. J'espère qu'il n'aura pas lieu.
Ça, c'est comme la Coupe de France et la bourgeoisie du foot, encore une fois.
J'espère qu'il n'y aura pas, parce que c'est complètement décrédibilisé.
C'est
la Coupe du Monde
de la FIFA pour essayer de faire élire par les petites nations.
J'espère qu'il n'y arrivera pas, parce que c'est plus la Coupe du Monde.
Mais de toute façon, on marche sur la tête, je suis désolé de le dire, mais la Coupe du Monde au Qatar, déjà, ça, c'est une aberration. On verra comment ça va se passer.
La Coupe du Monde au Qatar et 500 morts dans la construction de ça.
Les questions de tirage aussi, c'est un peu bizarre.
Pour la Ligue des Champions.
J'aimerais bien aller faire le tirage, moi, un jour.
On peut avoir des buts.
C'est bizarre, comment ça se passe.
Très bien, mais écoutez, merci de vos débats passionnés pour cette rentrée. On a parlé de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, du Ballon d'Or. On a fait un point sur le championnat et sur les Coupes d'Europe. On va rappeler donc, Arnaud, qu'il y a peut-être le match de Sainte-Geneviève-des-Bois. On a écouté M. Turpin et puis le capitaine de Sainte-Geneviève. Cet après-midi à 14h15, rien n'est fait. La décision va tomber dans quelques minutes.
Quelques minutes, et je voulais juste dire un truc avant de finir cette émission. C'est vive le handball qui va prendre place avec la Coupe du Monde en France cette semaine. Ça va être la fête. On a eu l'Euro cette semaine en France, quelques mois de la décision pour les Jeux Olympiques. Ça peut être intéressant de voir une nouvelle compétition en France.
Oui, et donc Arnaud nous fera un point sur ce championnat du monde dès le week-end prochain, dans les 3 semaines qui emmèneront les championnats du monde de hand, en espérant que l'équipe de France s'y comportera bien. Voilà, on va remercier Victor pour qui c'était la rentrée. On va lui souhaiter aussi une bonne année. Il y a une mise en route un peu difficile techniquement, mais cette fois-ci, ça va s'arranger. C'est promis, c'est juré. Et puis, on a pu faire le tour complet de cette première de Tribune Foot. Rendez-vous donc le 5 février pour le prochain Tribune Foot et puis Tribune Sport naturellement la semaine prochaine, où on reviendra donc sur le marathon des Yvelines qui s'était lancé dès 9h à Cernay-la-Ville, 8h45. Bibi. Voilà, et à Bibi, puis notre ami Olivier. Ouais. Allez, bon dimanche à tous et à toutes, et rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne d'Herveux. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.